sommaire ce matin, c'est aujourd'hui la journée des casques bleus. À une certaine opinion qui aurait des appréhensions sur leur travail suite au conflit qui persiste dans le Kivu, le porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO évoque la nécessité d'une couverture globale avec les FARDC afin d'étouffer toute menace contre les populations civiles. Le représentant de l'ONG Free Fire DRC à Kinshasa demande au président de l'Assemblée nationale, Obe Minaku, d'enquêter sur les personnalités étrangères et congolaises impliquées dans l'exploitation frauduleuse des minerais du pays. Exploitation qui ferait plus de tort à la RDC, dira Herman Zeza. Et puis l'opération d'assainissement lancée par l'hôtel des villes de Kinshasa prend des dimensions inquiétantes. Certains policiers chassent brutalement les commerçants le long des principales artères. Le chef de la police à Kinshasa justifie cette situation par les refus des 10 marchands d'obtempérer. Bonjour à tous. Le Monde célèbre ce mardi 29 mai la journée des casques bleus avec pour thème cette année maintien de la paix et partenariat. Ils sont à ce jour 120 000 hommes et femmes en service dans 17 missions de paix dans diverses régions du monde à qui la communauté internationale rend hommage aujourd'hui. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, salue la mémoire des 112 casques bleus qui ont perdu la vie en 2011 au service de la paix à travers le monde. Cette année, 2012, 27 autres sont morts en service commandé de janvier à avril. Si la communauté internationale dédie une journée aux casques bleus, c'est parce qu'elle reconnaît en définitive les sacrifices qu'ils consentent tous les jours, affirme pour sa part le porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO. En République démocratique du Congo, une certaine opinion dit ne pas voir les résultats concrets sur le terrain au vu du conflit qui perdure en ce moment au Kivu. Le colonel Maktar Diop, chef des opérations et porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO, rejette cette affirmation et met l'accent sur les efforts que doivent fournir les casques bleus et les FARDC dans la lutte contre les groupes armés. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali.
Il faut partir des débuts de la stabilisation de la République démocratique du Congo à la sortie de la guerre jusqu'à maintenant. Et ensuite, surtout, prendre en compte les réalités du pays. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays qui manque d'infrastructures et surtout, il faut également prendre en compte les effectifs de la force. Si nous faisons simplement une comparaison avec l'Afghanistan, l'Afghanistan est pratiquement 10 fois plus petit que la République démocratique du Congo et les forces qui opèrent actuellement là-bas sont à peu près 200 000. Nous, nous faisons 18 000, nous devons opérer dans les zones aux profit de population isolées où il n'y a pas de voie de communication et là, forcément, on ne peut pas être partout. Donc notre action doit être complétée par le redéploiement des unités du FARDC. S'il n'y a pas de force de sécurité, il est évident que les groupes armés vont profiter de ces vides sécuritaires pour faire, disons, des violations de droits de l'homme. Maintenant, le défi, c'est qu'ensemble, avec les unités du FARDC, que nous parvenions à avoir une couverture globale, en tout cas correcte, pour pouvoir intervenir à temps contre toute menace contre les populations civiles.
Le colonel Maktar Diop est l'invité de Radio Kapi ce matin. Concernant cette célébration, la MONUSCO prévoit des activités à travers ses représentations. À Kinshasa, la journée d'aujourd'hui sera marquée par une cérémonie officielle au quartier général du bataillon ghanéen, des journées portes ouvertes à la base de la police MONUSCO et l'inauguration de quelques actions sociales. On enchaîne avec le Bas-Congo où le député national Fabrice Puella, élu de Matadi, salue le travail abattu par les casques bleus dans des conditions souvent difficiles. Il reconnaît cependant que l'apport des soldats onusiens n'est pas bien compris par la population congolaise. Et pour cela, il invite la MONUSCO à communiquer davantage. On l'écoute au micro de Danny Kindanzita.
Nous avons les casques bleus. Ces casques bleus sont importants. Ce sont des gens qui souffrent, qui payent de leur vie. Il m'a été donné de visiter, surtout ici chez nous en République démocratique du Congo. Certains passent la nuit à 3, à 4 dans un réduit pour maintenir la paix. Et chez nous en République démocratique du Congo, c'est vrai, il y a des gens qui se posent mille et une questions sur le rôle des casques bleus. Il est important que la MONUSCO communique, mais il est clair que la population comprenne très très bien le rôle des casques bleus chez nous, que la MONUSCO joue pleinement son rôle, que la MONUSCO, à travers les casques bleus, rassure en ramenant réellement la paix.
Nord Kivu maintenant, y a-t-il eu exaction avec mort d'homme dans le groupement de Walowa Uroba, un territoire de Walikale, et de Ufumandu 2 dans celui de Masisi? En tout cas, une mission conjointe de la MONUSCO Goma est entrée en contact samedi dernier avec deux témoins qui ont trouvé refuge dans la localité de Katoï, un territoire de Masisi. Les témoins interrogés à ces sujets précisément déclarent avoir vu des centaines de corps, tous des civils. Mais il est encore difficile de préciser combien de personnes ont été massacrées par des groupes armés ethniques protagonistes dans le milieu. C'est un reportage de Gisèle Cage qui revient de Katoï.
Plusieurs témoins, y compris des responsables locaux, sont unanimes à reconnaître que les massacres se sont déroulés entre le 9 et le 25 mai dans 11 villages à Waloa, Uroba et Ufamandu 2. Selon ces témoins, des hommes armés qui se présentaient comme de Raïa Motomboki, des combattants Maïmaï apparentés à la communauté Tembo, ont attaqué des villages et tué plusieurs personnes de la communauté Hutu. C'est à coups de machette, lance et couteau que la majorité des victimes ont été tuées d'après toujours des témoins. Les personnes attaquées devraient rentrer chez eux au Rwanda, scander les assaillants. Le chef des secteurs de Katoï, Bigembe Turikon Kiko, parle d'au moins 400 tués, chiffres qui ne sont pas corroborés par d'autres sources. Pris des cours, les Hutus survivants ne pouvaient que quitter le village, les uns dans la brousse et d'autres dans de villages encore paisibles. C'est comme les témoignent se rescapés du village Bitoï.
Nous avons entendu des tirs et nous nous sommes enfuis. Après, nous sommes revenus au village et nous avons trouvé des gens qui étaient tués. Nous avons vu les corps des 5 enfants, au moins 10 hommes et plusieurs femmes. Nous avons compté 28 corps au total.
Dans tout le village où deux gens ont été tués, il n'y a aucune présence de militaires FARDC. Seul le Raïa Motomboki régnait. Il se serait même pris à quelques FDLR qu'ils auraient tués. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Dans l'actu, il y a aussi l'ouverture hier à Kinshasa du procès des auteurs présumés de l'attaque de la résidence du président Joseph Kabila et du camp Kokolo. Souvenez-vous, c'était au mois de février de l'année dernière. Ils comparaissent devant la cour militaire de la Gombe à la prison centrale de Makala. Au total, 154 détenus constitués à majorité des civils et militaires ont comparu à cette première audience essentiellement consacrée à leur identification, confirmation des charges portées contre eux. 59 compagnies fictives exploitant frauduleusement les minerais de la RDC sont démantelées dans les îles Vierges de Grande-Bretagne et Gibraltar. C'est le résultat d'une enquête menée par un parlementaire britannique, Eric Joyce. Son ONG, Free Fire DRC, représentée à Kinshasa, l'a fait savoir hier à la presse. Selon lui, des transactions effectuées entre ces compagnies et le Congo ont remporté des grands avoirs à ces entreprises, dont quelques-unes apparaissent à la Bourse de Londres. Herman Zeza affirme qu'une bonne partie de ces compagnies appartient à un homme d'affaires juif qui aurait des entretiens, des relations d'amitié avec le sommet de l'État congolais. D'où son appel aux politiques congolais et à la société civile de lutter pour la transparence dans le secteur minier en RDC. Herman Zeza est au micro de Axin Digatero.
Nous avons un gouvernement qui va secrètement les ressources de l'État aux soi-disant compagnies fictives à des prix fortement en dessous de leur valeur réelle. Ces sociétés fictives n'investissent pas. Elles finissent par vendre les ressources naturelles qu'ils accueillent aux plus gros intérêts à des compagnies minières qui les exploitent et en font des bénéfices. Aux îles Vierges britanniques et à Gibraltar, ces entreprises continuent à percevoir des millions de dollars chaque année. Voilà pourquoi nous venons d'adresser une lettre ouverte à l'honorable Obed Minaku, président de l'Assemblée nationale, lui demandant de constituer une commission d'enquête pour statuer et enquêter sur les personnalités étrangères et congolaises qui exploitent les secteurs miniers à RDC.
On en vient à cette opération en ville propre lancée par l'hôtel des villes de Kinshasa qui prend des allures inquiétantes avec quelques dérapages. Certains éléments de la police nationale s'en prennent avec brutalité aux commerçants qui étalent leurs marchandises le long des artères principales de la capitale. Le commissaire de la police justifie cette situation par le refus des dits commerçants d'obtempérer aux ordres de l'autorité publique. Le récit des faits avec Michel Kifindangoé.
C'est une opération qualifiée de brutale qui sévit sur les avenues de Kinshasa. Des kiosques dévastés, des boutiques et des étalages brûlés, voilà ce qui caractérise l'opération Ville Propre.
Pour l'autorité urbaine, l'objectif est de nettoyer les rues, fluidifier la circulation et rendre la ville plus présentable. Seulement, certains policiers sont accusés d'agir avec beaucoup de brutalité. À Kitambo et au niveau de la station Macampagne dans la commune d'Engaliema par exemple, les policiers se sont mis à brûler des boutiques avec la marchandise dedans. Certains ont même coupé les arbres qui servent de l'ombrage aux marchands, ce qui explique l'indignation de ces vendeurs.
Ils cassent toutes nos boutiques. Parfois, ils brûlent toute notre marchandise. Ils sont en train de nous détruire. Le peuple souffre déjà et vous venez avec toute brutalité brûler ses biens. Mais vous amplifiez sa souffrance.
Cette opération est néanmoins saluée par certains Kinois.
Les policiers n'exagèrent pas. Seulement, les policiers doivent exécuter leur chef d'ici.
Le commissaire de la police ville de Kinshasa rassure pour sa part que ces éléments se comportent plutôt bien. Pour le général Jean de Dieu Oleko, la police est brutale seulement avec des gens qui refusent de se soumettre aux instructions de l'autorité publique.
À noter pour finir que certains produits alimentaires vendus à Kinshasa exposent les consommateurs à plusieurs maladies. Sans tenir compte des considérations élémentaires d'hygiène, ces produits non couverts sont étalés à longueur de journée le long des artères de la capitale. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.